Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du jeudi 5 mars 2026. On se retrouve avec un Bitcoin au-dessus des 72 000 $, plus 6% sur les dernières 24 heures, et Ethereum plus 7,50 à 2100. Il est venu hier autour de 2150, comme vous le savez, c'est sa zone pivot. On a tout le top 10 qui progresse en moyenne de plus 5%. On a également plus 8 pour Dogecoin, plus 8,50 pour Zcash à la 21e place. Et quand on s'enfonce donc dans le top 30, on a comme ça du plus 3 à plus 8%. C'est le cas de Maker Sky. On a AAV qui se laisse pas complètement couler, 115 $, ça sera le sujet du jour, à plus 4%. Est-ce qu'il faut larguer ces AAV au vu de l'actualité, ou est-ce qu'il faut encore y croire? Plus 4 également pour Rondo, plus 8 quasi pour Pumfun, et on clôture le top 60 avec Aspa, Nexo, Flare Network et Official Trump, qui sont tous entre 800 et 900 millions de capitalisation. Un grand merci à tous pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo spéciale « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?» chapitre 1, le travail, c'est les Financial Tales, d'où le nom de cette chaîne désormais. On vous accompagne depuis 7 ans autour de CM précédemment, et à présent autour de FinTales. Donc c'est un parcours qui a été long, semé d'embûches. On a vu passer 3 cycles, puisque de mon côté, pour ma part, ça a commencé en 2016-2017, bien que je n'ai pas spéculé. Le cycle de 2017, c'était l'apprentissage de loin, et ensuite on a mis les premiers sous en 2018, donc ça fait désormais 8 années sur les marchés, dont 8 années sur les cryptos, qui sont un marché très difficile, très volatile, acerbe et parfois complexe à décrypter. Et c'est pour ça qu'avec le maigre recul qu'on a aujourd'hui, on essaie de vous apporter comme ça un petit peu de profondeur sur cette quotidienne, comme on pourrait la nommer, qui par le passé était du 7/7, mais qui finalement, quand on prend là aussi un petit peu de recul, n'apportait pas forcément beaucoup de choses. Quand on regarde la quotidienne, c'est bien d'avoir un peu le journal TV de Pernod version crypto, mais la plupart du temps il ne se passe pas grand chose. Je vous rassure également, on essaie de trouver un nouveau modèle de fonctionnement au niveau des infos pour vous amener toujours les informations, que ça soit du côté de X ou que ça soit du côté des médias crypto, les informations impactantes en tout cas, qui peuvent avoir un intérêt de votre côté, puisque 90% c'est du bruit. Donc merci vraiment du fond du cœur pour cet engagement que vous avez eu sur cette vidéo. On approche les 6500 vues, et même si le compteur ici du côté de YouTube que vous voyez, vous, n'est pas encore à jour, de notre côté, c'est la vidéo qui a la mieux marché des 10 dernières vidéos. On a plus de 300 commentaires, tout ça est organique. Donc ça fait super plaisir et ça nous encourage pour la suite à réitérer ce genre de format que vous retrouverez approximativement une fois par mois du côté de la chaîne, en plus des 1 à 3 fois par semaine où nous venons vous décrypter un petit peu l'actualité, finance, macro, et où nous essaierons au travers du temps d'avoir toujours plus d'experts entre guillemets. Et quand on ne sait pas, soit on dira qu'on ne sait pas, soit on invitera des gens qui sont infiniment mieux calés que nous sur tel ou tel sujet. Donc vraiment, merci encore à tous pour votre engagement au quotidien. Et on en vient donc à notre sujet principal du jour, autour de AAV. Que s'est-il passé exactement? Et pour faire donc le cheminement de pourquoi on en est là aujourd'hui, il faut repartir un petit peu dans le passé. Et c'est vrai que par le passé, eh bien, on a eu la fondation qui a été créée initialement essentiellement par Stani, donc qui est toujours aujourd'hui considéré comme le CEO autour de AAV, bien que ça soit la partie prenante de ce qui nous amène un peu à cette discorde latente en ce moment avec la DAO en tant que telle. Donc vous m'excuserez pour mon accent anglais, mais c'est Decentralized Autonomous Organization, quelque chose qui est censé se passer de façon complètement décentralisée. Or, on constate ces derniers mois et ces derniers trimestres qu'autour de AAV Labs, que représente quelque part l'entité société un peu plus centralisée qui a les pleins pouvoirs aujourd'hui autour de AAV, que c'est eux qui sont en train de prendre le lead, tout comme ils l'ont toujours eu finalement. Peut-être que c'était un peu utopique pendant ces dernières années de se dire que AAV serait transposé pleinement et simplement en DAO totale. Donc est-ce que ça n'est pas l'utopie réelle aujourd'hui face aux régulations, face au monde tel qu'il est, face à la finance, d'être plutôt régulé plutôt que de vouloir affronter le système complètement et frontalement en étant totalement décentralisé? C'est une question totalement ouverte, mais voilà, c'est une question qui est en train de se jouer là maintenant. Il y en a d'autres qui, bien entendu, vont essayer de rester totalement décentralisés, mais peut-être avec un coût derrière d'un point de vue de la régulation qui risque justement un jour ou l'autre de venir frapper à leur porte et de mettre un coup d'arrêt. Donc Aave a vu le jour sur la naissance quasi de Ethereum, donc on est dans les années 2016-2017 avec une belle progression à l'époque de son token et de ce projet qui s'appelait ETH Lend, le but étant de pouvoir emprunter et de pouvoir déposer donc des stablecoins ou des crypto-monnaies dont Ethereum en collatéral pour pouvoir derrière eh bien, faire exactement ce qu'on fait dans une banque, c'est-à-dire du crédit lombard, si vraiment on résume ça à son plus simple appareil. Au bear market de 2018, eh bien, ETH Lend nous perd 99% de sa valeur, on ne sait pas s'il va s'en remettre et pourtant derrière on a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Alors là, à cette époque, on est sur la V1, bien entendu. On a la V2 qui continue d'arriver ensuite et on a eu un rebond en 2020-2021 que vous étiez là pour voir la première fois qu'on a parlé de Aave en 2019 sur la chaîne. Je crois qu'on avait quelques millions ou quelques dizaines de millions de TVL. Aujourd'hui, vous avez vu que voilà, on reste sur le leader du marché, en tout cas jusqu'ici, puisque ça pourrait, toute cette histoire, rebattre un petit peu les cartes. Donc le temps a avancé, toujours avec cette super team qui fait du très bon boulot, le token s'envole, le bullrun de 2021, Aave en tête de file avec des milliards à ne plus savoir quoi en faire, et ensuite on a eu bien entendu le bear market de 2022. Entre temps, des prestataires externes ont été recrutés, que ça soit pour les audits, et notamment on pense aux réguliers Open Zeppelin ou d'autres dans ce genre qui sont vraiment des brutes au niveau du code et au niveau de tout ce qui pourrait s'apparenter à la recherche de failles, au capture the flag, etc. Ils ont pris les meilleurs parmi les meilleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui Aave n'a toujours pas été hacké et on touche du bois, on espère que ça n'arrivera jamais. Et surtout, ne vous mettez pas en tête là qu'en ce moment les choses sont en train de changer à ce niveau-là. Aave reste toujours aussi sécurisé, mais par contre le but dans une gestion du risque louable et logique, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, bien entendu. D'autant plus que, voilà, c'est pas pour dire qu'un tel est mieux qu'un autre, mais on voit que Morpho est en train de se développer très bien. Donc exactement comme pour quelqu'un qui voudrait s'exposer aujourd'hui au token de DeFi, on va pas mettre 100% sur un seul token. C'est exactement pareil pour ceux qui veulent déposer de l'argent sur les 10 protocoles et qui ne veulent pas s'exposer à un seul risque, bien entendu. Et donc revenons à nos moutons et on en est à la V3 poussée par BGD Labs, dont récemment on a vu du côté des réseaux sociaux le départ. Ça se passe plutôt pas mal puisqu'ils respectent leurs engagements professionnels et ils continueront d'être là pour quelques semaines à quelques mois. Et vient de leur emboîter le pas quelqu'un que vous connaissez très bien sur cette chaîne puisqu'il s'agit de Mark Zeller avec Aave Chain Initiative ACI qui, il y a depuis 3 ans, a très largement contribué, a très largement organisé toutes les propositions, toutes les implémentations. C'était un rôle qu'il avait déjà officiel à l'époque quand il ne travaillait pas pour lui et ensuite il a transposé autour de ACI avec une équipe qui fluctuait, si mes informations sont bonnes, entre 5 à 10 personnes au travers du temps qui travaillaient avec lui autour de l'ACI. Donc on a 2 départs majeurs. Un token qui aussi entre 100 et quelques dollars et 150 dollars, qui est une zone un peu de polarité pour le token de Aave d'un point de vue technique, en tout cas long terme. Et tout ce questionnement donc de est-ce que Stani va réussir avec une équipe qui désormais va jouer et plaider totalement le rôle un petit peu plus centralisé quelque part, à pousser cette V4 seule sans ses prestataires qui ont fait la gloire de ces dernières années de Aave. En tout cas, voilà, c'est le moment sur lequel nous trouvons de transition et c'est aussi, ne nous y trompons pas, un moment assez historique pour toutes les DAO qui peut-être aujourd'hui resteront au stade expérimental, resteront l'utopie de une poignée d'irréductibles. On dit aussi dans les bruits de couloir que Marc, BGD Labs et quelques autres pourraient pousser leur propre projet plus tard, que ça soit un fork de Aave ou autre chose complètement. Donc voilà, il y a beaucoup de spéculation autour de tout ça. Le token en soi ne se comporte porte pas si mal au vu de l'actualité, mais peut-être que ça n'est pas encore totalement repricé. Là aussi, on verra comment ça va se passer au cours de cet été et d'ici cet automne. D'autant plus si on estime que Bitcoin, peut-être, n'a pas lui-même complètement terminé de baisser. Mais en tout cas, voilà où nous en sommes aujourd'hui pour AAV. C'est un drama qui aura des implications à court, moyen et long terme, bien entendu, si on peut qualifier ça de drama. Mais surtout, ça n'est pas sans nous rappeler que, eh bien, à la fin, c'est toujours l'aspect un petit peu plus centralisé qui vient se rappeler et se rapprocher du marché des crypto-monnaies et de cette industrie. À titre personnel, c'est peut-être aussi voilà, un petit peu une déception supplémentaire de se dire que cette utopie sur laquelle on a surfé en 2020-2021, où on avait l'impression qu'on allait révolutionner complètement le monde, a l'air d'être morte et enterrée aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est le déroulement qu'a choisi à la fois AAV, que choisit l'industrie qui veut perdurer, si jamais elle veut être régulée et en odeur de sainteté des pays, des institutions et de tout ce qui va bien. Et peut-être que un choix qui aujourd'hui nous paraît assez illogique pour nous, utopistes de la décentralisation, paraîtra dans quelques années le meilleur choix qu'ait pu faire AAV en tant que tel, ou bien, eh bien derrière, petit à petit, d'autres personnes, d'autres figures de l'écosystème quitteront à leur tour ce bateau-là, et tel que AAV Chan Initiative et Mark Zeller, au bout de quelques mois, voilà, se sépareront du projet pour le laisser petit à petit s'éteindre sur lui-même. On n'en est pas là du tout aujourd'hui. De même que la sécurité entre hier et aujourd'hui n'a pas changé, bien entendu, sur le protocole. Mais comme d'habitude, à la fois tant sur le plan de la spéculation, il va falloir faire attention, et sur le plan des plateformes que vous utilisez, on ne met bien entendu pas tous ses œufs dans le même panier. Sans transition, un petit site que je voulais vous montrer, que j'ai découvert je crois sur Tino Bourse récemment. Il s'agit de worldpairratio.com, donc avec les stock index par rapport au PE ratio, le price earning, et qui vous montre en ce moment où en sont sur 5 ans, 10 ans, 20 ans les trends, notamment pour le Nasdaq, pour le S&P 500, le MSCI World et tout ce qui se passe au niveau des gros indices mondiaux. D'ailleurs, on continue sur ce début 2026 d'avoir des très beaux mouvements, malgré le court terme qui, comme d'habitude, agite un petit peu les médias et la foule, j'ai envie de dire. Donc on peut constater malgré tout que aujourd'hui, voilà, on a beaucoup d'indicateurs qui sont soit dans le jaune, soit dans le rouge, et très peu qui sont offerts, c'est-à-dire qu'on pourrait acheter par rapport à leur valeur passée et surtout leur valeur future. Donc c'est là que finalement entre en jeu aussi aujourd'hui pas mal les ETF, etc., quand on ne sait pas trop quoi acheter et à quel prix, puisque ça devient très difficile pour les particuliers d'y voir clair. J'ai vu des gens là ces jours-ci sur les réseaux sociaux, comme d'hab, chill un petit peu les performances qu'ils avaient fait en stock picking depuis début 2026. Et j'en ai vu d'autres dire j'ai ouvert mon PEA, j'ai écouté les gens sur les réseaux et je suis déjà à moins 20% depuis le début d'année sur mon PEA. Donc comme d'habitude, ne vous faites pas avoir par les sirènes des réseaux sociaux. Il vaut mieux l'immense majorité du temps, preuve à l'appui, calcul à l'appui, et factuellement, quand on observe vraiment toutes les datas dans l'ensemble, avoir un simple ETF, s'asseoir sur ses mains et regarder ça de loin, je peux vous garantir que ça vous évitera de faire bien des bêtises. Et toujours sans transition, on passe au crypto total. 2420 milliards, on a buté sur la zone pile poil des 2500 qu'on attendait, donc si on avait ce petit rebond, si jamais le marché se chauffe, on peut revenir autour de 2900 à 3000 milliards, backtester toute cette zone de sortie avec la moyenne mobile 20 et 50 aujourd'hui qui est aussi alignée à 2900. Donc on va clairement pas mettre encore la charrue avant les bœufs, mais c'est le premier véritable rebond entre guillemets après 6 semaines de baisse consécutive. Donc ça n'était pas arrivé là aussi depuis le crack de 2022 de Terra et de FTX. C'est plutôt encourageant en tout cas à court terme. Côté métaux précieux, le gold recule sur ce fond de conflit du côté de l'Iran. Donc depuis les 5422 dollars l'once, on est à 5128. On avait le VIX qui avait bien gonflé mais qui a dégonflé hier. On était venu chercher du 28. À observer le VIX à chaque fois qu'on rentre dans cette box comprise entre 36 et jusqu'à 100 quasiment, c'est qu'il y a une crise mondiale énorme, et en général c'est les pics de volatilité négatifs, c'est le moment de passer à la caisse et de commencer à payer un petit peu tout en regardant bien entendu ce qu'on avait prévu de payer, puisque c'est pas le but de payer complètement à l'aveugle bien entendu. Le DXY, le dollar américain, qui reprend du poil de la bête, 99.15, donc on va voir s'il arrive cette fois-ci à franchir les 100 points. Le dollar donc qui récupère un petit peu de force. Le S&P S&P a clôturé malgré tout dans le vert, 0,78, toujours au contact de la moyenne mobile 20. Ça fait un peu le dos rond, comme disent les aficionados, ça a le cul lourd au niveau du cours, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner là pour les États-Unis pour le cours moyen. Le CAC 40 également qui s'est repris au contact de la moyenne mobile 20 autour de 8150 points. On a le CW8 plus 1% à 620 euros. Le WPEA, pour ceux qui en mettent donc dans le PEA comme son nom l'indique, la portion vaut aujourd'hui 6,24. On n'est pas très très loin de l'ATH, tandis que les stocks du côté Europe se portent plutôt pas mal avec un DAX allemand à 24 200, mais il avait méché récemment sa moyenne mobile 50. On était venu à 23 600, on est à 24 200 pour l'Allemagne. Le Nasdaq pour la tech américaine, 25 093. Là aussi, on essaie de coller à la moyenne mobile 20, mais on est en dessous. Donc, je pense désormais qu'on pourrait revoir à minima la moyenne mobile 50 autour de 23 400 et peut-être même les 22 400 avec, si des routes il y a plus tard, des supports qui sont bien plus éloignés puisqu'on est plutôt entre 19 et 20 000 points pour le Nasdaq et la moyenne mobile 200 est à 17 800. Donc, en termes de volatilité par rapport au cours d'aujourd'hui, on peut tout à fait se prendre en cas de crack majeur du côté des États-Unis, moins 30% sur ce type d'indice et revoir un moins 20% sur le S&P comme on l'avait vu en avril 2025 au moment des tarifs de Trump. Ça, c'est quelque chose à se mettre toujours dans sa tête, de se dire si ça se passe mal, jusqu'où ça peut descendre. Et à partir du moment où vous vous dites « Ok, aujourd'hui j'ai du capital, j'ai 1000 euros, j'ai 10 000 euros, j'ai 100 000 euros à investir sur le S&P, sur le marché américain, sur le MSCI World, enfin peu importe celui que vous choisirez », à partir du moment où vous êtes à l'aise et conscient avec le fait de si vous rentrez une fois le fameux lump sum, maintenant vous pouvez vous prendre une tuile sur un an roulant d'à peu près moins 20 à moins 30%, alors tout le monde est d'accord avec ce qu'il compte faire. Et surtout, derrière, vous êtes en bonne voie pour, sur 10 ans, 20 ans, profiter pleinement de la performance que vous offrira ce marché. La seconde crypto-monnaie du marché, Ethereum, donc après une belle consolidation autour de 1700-1800, on est de retour à 2150, on a toutes les moyennes mobiles au-dessus du pif, donc là, il nous faut désormais une grosse bougie impulsive pour franchir les 2400 et rallier les 2800 à 3000 et quelques dollars pour Ethereum. Ceci étant dit, je suis toujours partisan de me dire, au vu de la consolidation et au vu de ce qu'on n'a pas fait sur le cycle précédent, le jour où les étoiles se réaligneront en faveur des actifs dits à risque, on a un actif qui est proposé en ETF, on a un actif qui est désormais même proposé en ETF staké, donc on peut qualifier ça d'actif à rendement comme si c'était un dividende qui était versé. Donc je suppose qu'un jour, de même qu'en 2024, ils ont trouvé parfaitement comment vendre à Wall Street l'ETF Bitcoin, ils finiront par trouver la voie également pour Ethereum. Très beau rebond de toute l'industrie minière et tout ce qui a trait justement à l'écosystème crypto avec Galaxy en tête de liste à 18%. J'en ai pas en portefeuille, mais on a une traîne qui est bien soutenue pour le coup. AltBG pour la France, c'est éligible PEA, mais voilà, c'est très compliqué de rentrer sur ce genre de dossier. 80 centimes après un point bas à 56 centimes. Si on franchit la zone ici dure des 93 pour pas dire 1 euro, on pourrait avoir un peu plus de volatilité positive. Coinbase qui a clôturé autour de 208-209 dollars depuis les points récents à 140. Ça fait déjà une remontada en un mois d'une cinquantaine de pourcents pour Coinbase. On n'a pas l'impression quand on regarde comme ça sur le graphique. Mais pour ceux qui font du DCA pour du long terme ou quoi que ce soit, eh bien on a quand même des points d'entrée qui sont assez remarquables. Pareil pour MicroStrategy au contact de la moyenne mobile 200 qu'il reteste par le dessous autour de 146 dollars. On avait eu un point bas il y a un mois environ à 104 dollars. Et enfin Circle qui arrive sur son x2 bien tassé puisqu'on avait un point bas juste sous les 50 dollars. On est à 105 aujourd'hui. Toute la zone dure entre 110 et 145 pour Circle. À voir ce que ça donnera. Je pense que c'est pas le type d'action qui va immédiatement repartir en ligne droite, bien que, comme d'habitude, ça peut tout à fait arriver. Mais on aura un travail qui va se faire à un moment donné dans une certaine box. Et c'est ce qui va nous permettre de bien détecter que le marché est en train de bottom, etc. Chose qui, quand on observe Bitcoin honnêtement aujourd'hui, oui, comme on l'a vu et comme on l'a dit plusieurs fois, on est venu pas loin de la moyenne mobile 200. Et si tout se passait dans le meilleur des mondes, en mode vraiment pas trop de souffrance pour le marché crypto, ce qui est jamais arrivé, arrivé jusqu'ici, on pourrait avoir le bottom qui se fasse entre 60 et 70 000. Le scénario le plus plausible, c'est qu'on nous fasse croire à ça un certain temps, voire qu'on revienne, pourquoi pas, entre 75 et 80 000, et que derrière, il y ait la dernière tirette du flambi jusqu'à 50, à plus ou moins toujours 10 000. Je ne peux pas vous donner mieux en l'état, mais je pense que déjà, au vu de la lecture qu'on a eue sur le cycle de ces dernières années, et au vu de la lecture qu'on a eue là en bear market, pour l'instant, on ne s'est pas trop trompé. Côté action, on a Robinhood qui reprend aussi un petit peu de poil de la bête depuis les 70 dollars récents. On a 82, ça j'avais payé sans grande conviction ici, de même que les Netflix et tout ça, on avait vu tout ça ensemble et pareil, ça s'est plutôt pas mal passé pour le court terme. Nvidia pour sa part est toujours haute perché, on est dans une box, dans un range désormais entre 163 dollars en bas et la TH qui est autour de 211 dollars aujourd'hui. Les oscillateurs corrigent mais très souplement quelque part, on n'a pas de gros mouvements complètement erratiques. Comme je le disais à l'instant, Netflix, hein, le 0,5 de Fibo, 75 dollars, on est à 100 dollars, on va viser la grosse résistance ici des 105, 106, avec la moyenne mobile 50 juste au-dessus, 108 dollars, donc ça se passe plutôt pas mal là aussi pour les positions que j'avais prises à court terme et que petit à petit je ai mises en avant, puisque finalement le travail que je fais au quotidien avec vous comme ça, et notamment sur l'analyse technique, c'est quelque chose qui moi de mon côté me permet aussi de prendre des positions, donc quand je trouve des trucs sympas pour moi, ben finalement je vous le dis, et ensuite tout à chacun prend ses responsabilités et ses prédispositions, puisque je ne suis toujours ni conseiller en finance ni quoi que ce soit, c'est juste comme dirait un Canadien, un gars dans son bureau qui parle en slip devant son petit micro. Dassault Aviation plus 5%, toujours très haut, difficile de rentrer dans l'immédiat, mais on comprend très bien pourquoi la défense et l'armement ont tendance à performer dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a FDJ qui recule de 1,33, on avait eu une belle poussée récemment, mais pour l'instant ça n'est pas suivi immédiatement. Donc toute cette zone entre 26 et 27 euros pourrait faire office de résistance court terme. On a eu beaucoup de volume quand même qui est exécuté hein, du côté de FDJ. Donc je suppose que tôt ou tard ça aussi ça pourra se renverser. Mais pour l'instant ça semble assez timoré. Du côté des altcoins, difficile d'en choisir certains en particulier puisque pour l'instant ben, c'est un peu le jeu de chaise musicale. On a toujours BNB qui tient plutôt pas mal. AAV face au Bitcoin aussi qui arrive de nouveau sur sa zone de support ici, donc on va voir au long terme si on arrive à tenir. En tout cas, on aura une réponse assez rapide si on repasse en dessous ce support et qu'on accélère à la baisse face à la première crypto-monnaie du marché. Ça voudra dire que le marché a tranché et ne croit plus ou beaucoup moins en AAV. Pour l'instant, quand on regarde face au dollar, eh bien, ça peut être un ratio risque-récompense qui peut tout à fait s'entendre. Mais voilà, quand on voit tout ce qui est en train de se passer justement d'un point de vue des fondamentaux, ce coup-ci, ça laisse quand même se poser la question en tant que spéculateur avisé de si on veut prendre ce risque là. Et enfin en clôturera, je me suis rajouté récemment les deux indices de la Corée autour du Kosdaq et du Kospi. Donc comme d'habitude le but c'est pas de se faire passer pour un expert au niveau de l'Asie ou quoi que ce soit, mais il y a eu une volatilité complètement monstre puisque l'indice Kospi est passé de 2636 à 6349 en quelques semaines, quelques mois, et le Kosdaq était passé donc dans le double point bas ici début 2025 à 642 et on est venu chercher récemment 1216 avec une volatilité au niveau de cette bougie complètement monstre puisque on a reculé d'environ une vingtaine de pourcents sur la semaine, hein, c'est pas sur un mois ou quoi que ce soit, et c'est remonté derrière d'une quinzaine de pourcents entre hier et aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a un monde plus que jamais qui est placé sous le joug de la polarité, de la tension et de tout ce qui pourrait se déclencher un jour ou l'autre au sein justement de conflits armés ou de conquêtes de terres, d'espace ou je ne sais quoi. On se croirait parfois encore chez l'Amérique et les Indiens en bon nombre d'aspects, mais je rentrerai pas là-dedans. Mais en tout cas, voilà, pour le coup, ça a des implications pour nous en tant qu'investisseurs, en tant que spéculateurs. Et c'est pour ça que plus que jamais, il faut à la fois être diversifié, à la fois avoir un portefeuille défensif, mais pas trop. Donc pour la plupart, comme je le dis souvent sur la chaîne, on a une majorité qui est autour de 35 ans en moyenne. Donc on commence à avoir des fonds à allouer au marché. On veut prendre un petit peu de risque jusqu'à la retraite, mais pas le risque extrême qui risque de nous conduire à la ruine. Et une fois qu'on fait le petit méli-mélo de tout ça, on arrive très bien à cibler exactement ce vers quoi on veut aller en fonction, comme d'habitude, de sa propre appétence au risque, puisqu'on peut très bien avoir un profil de 30 ans qui veut s'exposer à 100% au S&P 500, comme on peut avoir un profil de 30 ans qui veut avoir ses 3, 4, 5% par an en ayant une volatilité infiniment moindre et qui n'est pas prêt à accepter les moins 30, moins 40, moins 50 que peuvent avoir comme ça au cours de leur vie les différents marchés. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, on se retrouve soit ce week-end, soit lundi en fonction de s'il y a eu d'autres choses qui se sont passées. C'était une fois de plus une émission qui n'était pas prévue aujourd'hui, mais qui fait plaisir puisque vous avez répondu présent sur la dernière vidéo et dans tous les cas, nous on continue de débriefer tout ça pour les prochaines années, de passer les news, de passer l'analyse technique et d'essayer de détecter en amont les petites tendances, les petites actions qui pourraient nous servir au cours du temps. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.